Amis auditeurs, bonjour. C'est toujours Sophie sur Page en Partage. Et en ce mois de juillet de l'été austral, nous continuons la lecture du livre de Pierre-Raphaël Vidotte qui s'appelle L'habitant. Donc, ça fait déjà 2 semaines que nous avons entamé cette lecture. Nous avons découvert le domaine de Monsieur Vidotte, donc Monsieur Fortuné Vidotte. Qui s'appelle La Cressonnière, et il nous a été présenté beaucoup des personnages qui gravitent dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous allons découvrir davantage de l'activité de Monsieur Fortuné lui-même, puisque il est maire de Saint-André, il est à la tête d'un grand domaine sucrier, et on va le voir dans ses négociations avec l'usinier, dans ses fonctions de payeur de ses ouvriers agricoles. Donc c'est toute une partie de l'activité économique liée à la culture de la canne qui nous est présentée et qui se situe en 1927 pour resituer l'action. L'usinier. Les maisons de fonction des directeurs des sucreries coloniales étaient construites selon un modèle quasi standard, sans aucune recherche architecturale. Des murs de moellon montés au mortier de chaux, portant une charpente de la plus simple facture, soutenant un toit à deux pentes en tôle, souvent ondulée, recouverte de peinture anti-rouille d'une couleur rougeâtre. Il délimitait un espace rectangulaire. Les bureaux des directeurs d'usine étaient solidaires de leur logement de fonction. La maison du directeur est située dans une salle aménagée, souvent en pignon. Celui-ci accueillait une extension de la varangue principale, laquelle, formée d'un prolongement des pentes du toit supporté par des colonnes en fonte ou en bois, abritait un large espace dallé ou bétonné, desservant toutes les pièces de la demeure. Surélevé d'un ou de 2 mètres pour éviter l'envahissement éventuel des eaux pluviales, ces maisons présentaient, en façade principale, un large perron de plusieurs marches en pierre, du basalte taillé. Il était monté en forme de pyramide tronquée, de telle sorte qu'on pouvait gravir cet escalier massif par ses 3 faces et accéder à un palier, souvent orné de beaux carreaux en céramique, avant de pénétrer sous la varangue proprement dite. Ce seul élément suffisait à mettre en valeur toute la demeure dont la façade était soulignée par des rambardes blanches en bois peint, diversement ouvragées, qui avaient pour principale fonction de prémunir les habitants contre les chutes possibles dans le jardin et possédaient aussi, accessoirement, une fonction décorative. Le bureau de Ravincreuse était situé en pignon nord-ouest de la maison. Cette partie de la varangue était desservie par un simple escalier, mais de pierre taillée également. Il était séparé du reste de la maison par une grande cloison blanche, faite de planches en bois de Tangorge, percée d'une porte le rendant accessible de l'intérieur. De l'extérieur, on y entrait par 2 portes. L'une, à partir de la varangue principale, et l'autre s'ouvrait sur celle située en pignon. C'était généralement par celle-là que les visiteurs entraient pour les rendez-vous avec le directeur. Ils étaient invités à sortir par l'autre quand la rencontre entre certains d'entre eux, du point de vue de l'usinier, n'était pas souhaitable ou opportune. Ils attendaient sous cette varangue meublée d'une table en rotin et de 3 fauteuils de la même facture, quelques sellettes disposées contre le mur et, à la jonction des 2 varangues, supportaient des fangents de capillaires ou de bégonias. Le bureau des sucreries coloniales à Ravincreuse était meublé en pichepin. Une bibliothèque aux dimensions assez impressionnantes était disposée contre la cloison de bois à l'arrière du bureau directorial. Sa partie basse était aménagée de manière à constituer de nombreuses alvéoles qui recevaient les dossiers et documents. Cet élément supportait une belle vitrine dont la finesse d'exécution contrastait fortement avec son caractère rustique. Elle contenait d'innombrables tomes d'une encyclopédie agricole, des ouvrages sur les techniques culturales de la canne, sur les engrais, et quelques livres dont les titres en anglais traitaient apparemment de la fabrication du sucre, étant donné les nombreuses répétitions du mot « sugar » visibles au dos des volumes. L'autre meuble remarquable, situé entre l'unique fenêtre qui s'ouvrait sur la cour arrière et la cloison, était une armoire de couleur crème dont la fermeture était commandée par pas moins de 3 serrures visibles qui se trahissaient par l'importance des trous d'introduction des clés et le cache ovale en fonte de la clé principale dont les moulures dorées représentaient un symbole d'inviolabilité accompagnant la marque du coffre-fort. Un porte-plan en pain massif se distinguait par ses nombreux tiroirs aussi importants en largeur et profondeur que minuscules en hauteur. Il contenait les plans des propriétés en faisant valoir direct. Toutes les lettres de l'alphabet y étaient peintes en noir pour le classement. Le corps des inscriptions était peu discret et assez inesthétique. Il est vrai qu'aux sucreries coloniales, le fonctionnel primait le beau. La table de travail, il est impossible de désigner autrement ce qui devait servir du meuble de bureau, était également fabriquée sans recherche esthétique. Un plateau monté sur 8 montants, des petits madriers tout juste rabotés, disposés 4 à 4 à chaque extrémité et portant 6 tiroirs. Un espace les séparait 3 à 3, le logement des jambes de l'utilisateur. Le fauteuil de celui-ci montrait un dossier en bois brun qui entourait un canage dont la patine témoignait de son ancienneté. 2 chaises appareillées servaient aux visiteurs. Un grand tapis de cisale s'étalait sous cet ensemble d'objets utiles. Il mettait une note claire, riante et chaude, dans cette atmosphère assombrie davantage encore par un sol en ciment glacé, brillant et brunâtre, effet dû autant aux ailes de la domestique affectée au nettoyage qu'aux incommensurables frottements de son pain de cire d'abeille et de sa brosse coco. C'est dans cet antre que Fortuné devait rencontrer l'usinier pour négocier l'apport de canne de la prochaine coupe. Vous êtes toujours sur Page en Partage où je vous fais la lecture de L'habitant de Pierre-Raphaël Vidotte. Et en ce mois de l'hiver austral, le mois de juillet, c'est aussi la campagne sucrière qui est en cours ici. Et pareil, en 1927, on voit que ce sont les hauts personnages de la société réunionnaise qui s'en occupent et qu'on a des jeux de pouvoir dans l'ensemble de ces négociations. La négociation. Après s'être confortablement installé sur le siège de la Prima Stella, Fortuné ouvrit la vitre de la portière et la laissa ouverte pendant tout le trajet. En dépit de la bonne suspension de la voiture, il était secoué, car le chemin de l'habitation, très irrégulier, comportait de nombreux nids de poules. Il demandera bientôt à Antoine de mettre une équipe pour les boucher, lorsqu'elle travaillera dans les champs qui bordent le chemin. Les travailleurs étaient de bons cantonniers également et savaient remplir les trous, parfois énormes, de galets de moyen calibre d'abord, puis de terre, puis d'herbe, en alternant les couches autant de fois qu'il était nécessaire pour en faire un monticule que le passage des voitures et des camions finissait par tasser au niveau souhaité. Fortuné réfléchissait à la meilleure argumentation à employer vis-à-vis de l'usinier, mais estimait que dans l'actuelle conjoncture, il était vulnérable. En effet, le monde agricole savait que ses propriétés risquaient d'être mises en vente, puisque l'un des fils demandait le règlement de la succession de sa mère décédée depuis 2 ans. Par ailleurs, obtenir la prime dite de transport la plus élevée possible pour une propriété située à un jet de pierre de l'usine constituait une véritable gageure, ce qui traduisait le fait que cette prime encourageait plus la régularité des apports qu'elle ne représentait un coût logistique réel. Dès lors, cette coupe pouvait être la dernière à son profit si les cannes changeaient de propriétaire. Bras des chevrettes pesait lourd dans la balance, avec plus de 10 millions de kilos, tandis que la cressonnière, avec 200 000 kilos, était moins intéressante. Cependant, comme la maison familiale y était construite, Fortuné savait qu'il ferait l'impossible pour la garder. Quoi qu'il en soit, il avait mis au point un plan qui consistait à racheter ses propriétés après avoir dédommagé le fils réfractaire. Il avait en effet pris contact avec tous les propriétaires riverains pour que son notaire et son avocat rachètent son bien pour le montant de la mise à prix, les autres planteurs s'abstenant de surenchérir. Il avait même obtenu des assurances du directeur des sucreries coloniales, un réunionné cousin de sa défunte épouse. Cependant, il savait que le directeur actuel de Ravincreuse avait des relations très étroites avec les administrateurs parisiens de la société sucrière. Par ailleurs, il le savait très ambitieux et prêt à développer un zèle intempestif pour diriger l'agence de sa société à La Réunion. Il avait épousé une héritière d'une des maisons de commerce les plus importantes de la place, avec laquelle il négociait les ventes des sucres de faisant valoir direct de Ravincreuse, ainsi que la part, un tiers, des sucres provenant de l'apport des planteurs de la zone d'usine qu'il contrôlait. C'est pour accroître son influence vis-à-vis de ce personnage que Fortuné tissait une véritable toile d'araignée autour de lui. C'est ainsi qu'il gardait les meilleures relations avec son futur gendre, un des principaux administrateurs de l'usine de Rivière-du-Mât, lequel était en passe d'en prendre la direction. Il était étroitement apparenté à la famille propriétaire de l'usine du quartier français. Enfin, il ne mettait aucun obstacle à la fréquentation de la cressonnière par un jeune HEC, collaborateur direct du directeur d'une des plus importantes sociétés de commerce de Marseille qui opérait dans l'océan Indien, aux Comores, à Madagascar, à l'île Maurice et à La Réunion. Ce jeune homme plein d'avenir avait commencé depuis 2 mois une cour assidue auprès d'une de ses plus jeunes filles depuis une rencontre dans le paddock de la Redoute lors d'une journée de course. Enfin, sa qualité de maire de Saint-André, auquel le député Gasparin devait, disait-on, pour une large part son élection à l'Assemblée nationale, améliorait sensiblement son pouvoir de négociation vis-à-vis de tous les usiniers et particulièrement des administrateurs de l'usine de Bois-Rouge. Telle se présentait la situation à la veille de la campagne sucrière de 1927. Les relations établies étaient solides, mais néanmoins, il fallait sans cesse les consolider. Aussi, sa qualité de vice-président de la Chambre d'agriculture et du Conseil général, de même que celle de président du syndicat des planteurs, lui donnait accès à des informations de grande importance. Cela lui permettait également d'être au courant des promotions et mutations de beaucoup de monde. C'est ainsi qu'il avait appris le prochain déplacement du directeur de Ravincreuse à l'usine de Vubel dans la région sous le vent, où la faisance valoir directe des sucreries coloniales était moindre, les planteurs plus nombreux et la compétition avec les autres sociétés sucrières plus âpres.
Le grappin.
L'accès aux réceptions
c'est la main de l'usine sur la canne entassée.
Et cela pourrait être fâcheux
un
pour la promotion,
vertical,
promotion de l'usine.
Fabriqué comme un énorme
c'est à la société des courses
soutenu par des
membre,
câbles d'acier
qu'il avait appris la nouvelle
il soutient
concernant le directeur de
horizontale sur laquelle
la
un chariot
du directeur
mobile
des sucreries
déplace le long de puissants câbles
le cousin
une
de
grande
sa
mâchoire armée de longues dents
Fortuné
d'acier.
N'était pas sûr que
le
directeur
est variable,
de l'usine
suivant l'appétit
le savait
de
lui-même.
Et l'importance
et c'est, riche de cette information
à ses pieds.
Qu'il pénétra dans la cour de
Ravincreuse. Révolte sur le terre-plein
il de imaginait que c'était la dernière campagne qu'il allait négocier avec
les
lui.
Cannes englouties
quand la prima Stella fit son entrée dans la cour de l'usine,
en s'interrogeant
celle-ci
sur le fonctionnement de
des bruits métalliques
robot,
des marteaux et des
et
masses des chaudronniers sur la tôle des grandes cuves des cuiseurs,
jusque
des cris des mécaniciens agrippés aux grandes roues dentées des pompes à vapeur, du sifflement des chalumeaux des soudeurs, révélant
les
dans l'ombre de la salle des générateurs
avec
leurs orgues de cuivre,
les mouvements du grappin.
L'usine se préparait pour la campagne. Pour accéder au bureau de l'usine, il fallait traverser cette cour pour atteindre un immense portail en fer forgé, toujours ouvert, sur un espace de verdure qui contrastait fortement avec l'aridité et la poussière du plateau de l'usine, dominé par le grappin écrasant de ces immenses structures métalliques tout l'espace. Sa flèche, telle les bras d'un immense robot, encadrait en perspective la masse de l'usine et semblait toucher la gueule des cheminées encore à jeun de fumée. Le confrère planteur. Lorsqu'il vit au pied du manguier du jardin de l'usine, attelé à son magnifique Milord, la belle jument de M. Selamann en train de brouter le jeune chien dent qui bleuissait les bordures de l'allée, Fortuné sut que la partie se jouerait à trois. L'équipage du planteur de Brapanon était caractéristique des attelages que les propriétaires utilisaient pour leurs courts déplacements. La voiture était portée par d'immenses roues dont les moyeux ouvragés supportaient des rayons vernis. Elle encadrait un berceau en bois clair, vernissé, qui pouvait se recouvrir d'une capote en toile de bâche noire. Les arceaux qui la soutenaient au besoin étaient pour le moment repliés vers l'arrière de la voiture et lui donnaient ainsi une allure ailée. Les pièces du harnais brillaient sur la robe luisante de la jument. Elles étaient si bien ouvragées qu'on oubliait leur utilité pour n'y voir que des parures. Le planteur de Brapanon était, semble-t-il, sensible à l'esthétique de son équipage, puisqu'elles étaient toutes finement et légèrement dorées. Les têtes des brancards étaient arquées à partir de l'attache de l'avaloir. Sellette, surcou, croupière, culeron, sous-ventrière et bricole habillaient plus qu'ils n'assujettissaient la jument dans ses traits. Le licol de la jument ne portait ni œillère ni mort, témoignant ainsi du caractère excellent de son dressage qui réduisait sensiblement l'utilité des rênes. Le planteur de Brapanon et ses 20 millions de kilos attendaient sous la varangue l'arrivée de l'usinier. Il était en avance car, contrairement à ce qu'il avait cru, le radier de la rivière du Mât n'était pas submergé par les fortes pluies de la nuit, ce qui lui aurait évité de faire un important détour. Les planteurs se saluèrent cordialement. Leur relation était très bonne. Ils se fréquentaient assidûment au syndicat des planteurs et partageaient la même passion pour les chevaux. Fortuné l'aborda pour lui faire ses compliments sur l'état et la beauté de sa jument. En retour, l'usinier de Ravine Glissante le félicita pour les performances de Verdun un anglo-arabe dont Fortuné était le propriétaire, qui avait animé la saison épique en étant souvent vainqueur ou toujours bien placé. Il lui avoua même qu'il avait gagné quelques bons paris à la redoute grâce à son cheval. Coiffés de leurs chapeaux, les planteurs devisaient debout sous la varangue. Monsieur Célamant avait un superbe Maussan gris-souris qu'il portait avec une veste noire et un pantalon gris. Fortuné portait son costume de tussor et son panama. Les deux habitants n'avaient fait aucun excès d'élégance et la sobriété de leur tenue rendait compte de celle de leur attitude. Seule la couleur dominante de leur habillement, assortie à leur teint, semblait les distinguer. Caractère trompeur auquel l'usinier s'était fait prendre une seule fois à ses dépens. Il se tenait à la lisière de la varangue de façade et celle de pignon, si bien qu'il découvrait en enfilade à la fois le bureau de l'usinier et ses appartements privés. Ils avaient remarqué en entrant la Viva Grand Sport rangée le long du perron et brillant de tous ses chromes. C'était la voiture de Madame Roque. Le chauffeur venait de sortir le beau véhicule du garage, signe que la belle créole ne tarderait pas à sortir elle aussi. En effet, il venait à peine d'entamer la conversation qu'une porte donnant sur la varangue s'ouvrit pour laisser passer une charmante créature. Madame l'usinière. Le directeur de Ravinecreuse avait épousé la fille cadette du propriétaire d'une des plus importantes maisons de négoce import-export de la place, la société Matineau et Fils. C'est elle qui négociait une part importante des sucres des sucreries coloniales. Celle-ci, pour diverses raisons, ne prenait dans ses tractations que la position de courtier, position certes moins rémunératrice, mais également moins coûteuse que toutes les opérations d'exportation qui prenaient en charge le sucre de l'usinier depuis ses magasins jusqu'à ceux du port, en passant par ceux du chemin de fer et port de la Réunion, CPR, ou de la banque s'il en était besoin. C'est également la société Matineau qui commandait les manutentions de mise à bord et d'arrimage en cale, Steve Doring, particulièrement délicate à mettre en œuvre à la pointe des galets, où les dockers étaient particulièrement efficaces, mais également très revendicatifs. Son mariage avec Vonette Matineau permettait au directeur de Ravinecreuse d'entretenir un standing et une place de premier rang dans la société réunionnaise, ce qui n'était pas le cas pour tous les collaborateurs des sucreries coloniales. Par ailleurs, les informations souvent uniques et importantes sur le marché interne arrivaient rapidement à sa portée dans le salon de son beau-père ou autour de sa table pendant les réceptions ou dîners que celui-ci donnait. La belle apparition aux cheveux noirs, ailes de corbeau et coupée à la garçonne portait un tailleur très strict et classique en lin beige. Elle tenait du bout des doigts une pochette en croco. La veste cintrée soulignait une taille fine et souple. La jupe droite, fendue, laissa deviner au premier pas qu'elle fit pour descendre l'escalier un léger froufrou d'organdi et de dentelle. La vision de la charmante créole laissa méduser les planteurs qui avaient ôté leur chapeau d'un même mouvement pour saluer la belle usinière. Ils oublièrent même un instant de remettre leur couvre-chef. Le sourire éclatant et charmeur qu'elle leur rendit commanda la poursuite de leurs gestes et permit aux chapeaux de reprendre leur place. Déjà, la Viva Grand Sport émit un puissant ronflement sous la pression vive et nerveuse de la petite chaussure sur l'accélérateur, ce qui augurait du tempérament de la conductrice, laquelle effectua un démarrage qui fit crisser les roues au flanc blanc dans l'allée. Une gerbe de gravier atteignit les jarres de terre cuite qui ornaient le jardin, confirmant les impressions sur le caractère de la fille Matineau. Vous écoutez Page en partage et notamment la lecture de L'habitant de Pierre-Raphaël Vidotte. Donc Pierre-Raphaël Vidotte est un auteur, mais c'est aussi un grand poète. Il a été à l'origine de la fondation Jean Albany, donc Jean Albany, autre grand poète de La Réunion, qui a été créé en 1985 par Pierre Vidotte, donc, mais aussi Alain Gilly, Claire Carme, Boris Gamaleya, Daniel Roland Roche et Sylvie Albany. Donc, c'est lui qui a aussi repris dans un disque deux grandes chansons du poète Jean Albany, notamment Commandaire, que l'on écoutera un peu plus tard. Donc, nous poursuivons nos négociations entre Fortuné, le personnage du roman, et l'usinier. Les paramètres de la négociation. Lorsqu'un planteur rencontre un usinier en dehors des lieux publics de négociation, commission de l'agriculture ou chambre du même nom, ce n'est pas pour discuter du prix de vente de la canne, car celui-ci n'est pas négocié, mais fixé par des institutions paritaires, lesquelles intègrent un nombre impressionnant de paramètres techniques, politiques et sociaux pour aboutir souvent à un montant qui est un compromis plus qu'un niveau d'équilibre économique. Dans le contact direct que les deux piliers de l'économie réunionnaise organisent entre eux, il s'agit vraiment de retirer le maximum d'avantages de part et d'autre. L'usinier sait fort bien que son prix de revient, car la notion économique résiste en dépit de toute sera de en dépit de tout sera d'autant plus bas qu'il traitera le plus important volume de canne, et comme ses champs ne sont pas extensibles à volonté, il sait qu'il a grand intérêt à ce que les planteurs apportent le maximum de leur canne sous son grappin et ses moulins. Sur le terrain de Saint-André, les apports des planteurs sont particulièrement déterminants, car ils représentent environ 40% de la production totale de l'île et plus de 50% de la production de la région comprise entre la rivière du Mât et la rivière Sainte-Suzanne. Aussi est-ce important pour l'usine sucrière de s'attacher à la fourniture fidèle, régulière et massive des planteurs. La zone de collecte de Saint-André a également ceci de particulier. C'est qu'elle comporte deux usines sur quatre, quartier français et rivière du Mât, qui ne sont approvisionnées que par les planteurs. En effet, l'une appartient en totalité à une seule famille et l'autre à une société civile agricole constituée essentiellement de planteurs. Étant donné leur poids économique, ces belles usines sont courtisées par des courtiers indépendants, cheval de Troie, des usiniers. Seul Mercure, dieu des commerçants et des voleurs, ou le diable, pouvait connaître leurs réelles intentions. C'est généralement une prime dite de fidélité et les conditions les meilleures de traitement et de transport que le planteur vient négocier en contrepartie de son apport régulier à l'usine. L'usine, elle, tente d'obtenir des contrats de longue durée, des conditions d'approvisionnement et de règlement qui n'entament pas trop lourdement sa trésorerie entretenu par les banques au coût optimum. C'est en effet l'usine qui consent des avances pour les règlements financiers et qui supporte les frais de stockage des sucres des planteurs livrés en nature. L'usine négociera ensuite avec le banquier les conditions d'escompte de ces avances consenties aux planteurs. Souvent, le choix de la banque entre dans les éléments de la négociation. Recensé par les autorités économiques publiques, qui sont essentiellement le gouverneur et son conseil privé, le conseil général après étude de la Chambre de commerce et d'agriculture, toutes les données, le coût d'intervention locale, nationale et internationale de chaque opérateur à la production et à la distribution du sucre, permettent d'établir le quasi-mythique bordereau des sucres qui servira à régler globalement et définitivement une campagne sucrière et à prévoir dans les mêmes conditions la campagne suivante. Ainsi, prime de transport, rythme d'approvisionnement, date des avances et des règlements, leurs modalités, durée de stockage, date d'enlèvement, tels sont les points principaux sur lesquels vont porter la discussion entre l'usinier Rock et les planteurs pour la campagne de 1927. Quand il entra dans le bureau de l'usinier, Fortuné était accompagné de ses 18 millions de kilos de bras de chevrette, de mansiole, de mille roches et de la cressonnière. Même s'il se voyait dans l'obligation de vendre le foncier pendant la campagne, la négociation serait valide et un éventuel nouveau propriétaire serait exclu automatiquement des conventions portant sur la récolte. Par ailleurs, les fonctions occupées au sein des instances qui élaboraient le bordereau le faisaient détenteur d'informations précieuses pour la conduite de la discussion. Et cela, l'usinier le savait, de même que le planteur de Brapanon, qui attendait patiemment sous la varangue en compagnie de ses 20 millions. Il savait que le maire de Saint-André serait un bon défricheur du champ de la négociation. Il lui faisait confiance et ne regrettait pas d'être obligé d'attendre un certain temps encore. Mais en bon planteur, M. Sélaman connaissait le poids et le prix de la patience. Pour l'usinier, cette matinée s'annonçait difficile. Sous sa varangue, 38 millions de cannes avaient salué courtoisement et galamment sa femme, alors que sa faisance valoir directe ne pesait que 15 millions. Il savait aussi que le maire de Saint-André avait des ennuis avec sa progéniture et que l'usinier de Ravine Glissante avait effectué une opération foncière qui avait permis une importante prise de participation des agriculteurs malbars dans le capital de l'usine de Brapanon, ce qui réduisait la puissance des autres administrateurs de Rivière-du-Mât et augurait d'une pression accrue des nouveaux capitaux sur la gestion de l'usine. Cependant, les événements ne pouvaient avoir de conséquences que sur les prochaines campagnes. En attendant, il fallait tenter de ménager le maire de Saint-André et l'usinier de Ravine Glissante. Pour le reste, les courtiers de Saint-Denis étaient alertés et la banque aussi surveillait de près les problèmes de trésorerie des planteurs usiniers de l'Est, lesquels devaient investir des sommes importantes pour la mise en valeur des nouvelles terres qui demandaient encore quelques années pour être productives. Ainsi, les apports de canne n'allaient pas varier sensiblement pour les deux ou trois prochaines campagnes. La marge de manœuvre pour trouver une parade s'annonçait suffisante. Il reçut donc Fortuné avec une cordialité un peu trop empressée, ce qui confirma Fortuné dans sa réserve à l'égard de l'usinier et le fit camper sur cette position longtemps. Le maître de la cressonnière, en lui faisant des compliments sur son épouse et après lui avoir demandé des nouvelles de son beau-père, lui apprit qu'il avait obtenu une concession de dérivation de la rivière du Mât pour alimenter son usine hydroélectrique, laquelle était actuellement dépendante du canal de Ravine-Creuse. L'usinier exprima sa satisfaction, mais également ses regrets de devoir mettre fin à une collaboration fructueuse avec son voisin. En effet, il regrettait surtout de voir s'éloigner un moyen de pression efficace sur le planteur. En effet, il lui arrivait de montrer au planteur sa vulnérabilité et sa dépendance en ce domaine. C'est ainsi qu'il était obligé, à période régulière, de curer le canal de Ravine-Creuse et pour ce faire de l'assécher en amont de l'usine électrique du planteur, perturbant ainsi sensiblement la distribution d'électricité des électeurs de Fortuné. L'inconvénient était déjà important lorsque le curage avait lieu deux jours, mais il devenait intolérable quand, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'usinier faisait savoir, ce qui, généralement à la tombée de la nuit, que ses équipes n'avaient pu terminer le travail dans l'espace d'une journée, alors que la turbine attendait l'eau salutaire et que les électeurs de Saint-André, privés de lumière, constataient qu'ils devaient sortir de leur placard bougies et lampes à pétrole sans avoir été prévenus qu'ils avaient à le faire. À chaque fois, Antoine et ses équipes d'Anton Royes rétablissaient à la lueur des flambeaux l'alimentation de l'usine. Mais il est évident qu'ils devaient le lendemain abandonner les tâches prévues pour assécher de nouveau le canal et permettre aux ouvriers de Ravinecreuse d'achever le nettoyage de la prise d'eau sur la rivière du Mât. Fortinet s'informa de la date prévue par l'usine pour la mise sous vapeur. Il fit part à l'usinier qu'il envisageait de commencer la coupe par la Cressonnière et Mille Roches, car les cannes promettaient pour la deuxième quinzaine de juin. Par ailleurs, les nouveaux camions Renault qu'il avait achetés seront tout juste arrivés à cette date. Bras de Chevrette et Mansiol pourraient commencer à faire des apports réguliers vers fin juillet. Le directeur de Ravinecreuse déclara qu'il commencerait à recevoir des cannes pour un démarrage fin juin. Il proposa fort aimablement d'affecter les camions du parc de Ravinecreuse au transport des cannes, des bras de Chevrette et de Mansiol. Ainsi, l'usinier tentait de neutraliser pour ses deux propriétés éloignées la prime de transport pour des cannes non encore arrivées à pleine maturité. Beau cadeau empoisonné que Fortuné refusa aimablement, estimant en lui-même qu'il commencerait à couper la Cressonnière et Mille Roches, quitte à rafistoler le vieux Citroën qu'il tiendrait bien quelques jours sur le trajet réduit qui conduisait les cannes de la Cressonnière à Ravinecreuse. Il devenait urgent de prévenir le gérant de Bras de Chevrette, son fils René, des dispositions prises, car celui-ci avait à entreprendre des négociations avec ses ouvriers agricoles, les Alors Pioche de Virapin, particulièrement virulents en cette région et toujours très nerveux à l'approche de la coupe. Il fallut aborder également le taux de la prime de transport allouée à chaque quintal de canne pour fréquenter le grappin de l'usine. Selon les régions, celle-ci variait beaucoup. Elle pouvait atteindre le cinquième du prix de la canne. L'usinier proposa 9,50 francs le quintal et ajoutait que ce taux était réservé aux cannes de la Cressonnière. Il consentait 10 francs pour celles de Bras de Chevrette et de Mansiol. Fortuné souhaitait 15 francs, quelle que soit la zone d'apport, et précipita la fin de l'entretien sous le prétexte qu'il avait un rendez-vous important qui nécessitait sa présence à la mairie. Il prit congé de l'usinier en l'informant des heures de sa présence à la mairie, lui signifiant ainsi qu'il pouvait l'y rencontrer dans le cas où il aurait changé d'avis. Le directeur d'usine fut ébranlé par l'assurance du planteur, et comme sa vanité naturelle venait d'être atteinte, il tendit une main molle et son interlocuteur en restant assis. En levant les yeux vers lui, il prit conscience que le panama du planteur était resté vissé sur sa tête pendant toute la durée de la discussion. Fortuné ouvrit la porte du bureau et la laissa grande ouverte. 15 francs. C'est le taux que lui avaient promis les administrateurs de Rivière-du-Mât par le truchement de son futur gendre. Ce taux était particulièrement attractif, mais les administrateurs de Rivière-du-Mât voulaient doubler leur réception de l'année. Ils avaient le vent en poupe et un certain nombre d'administrateurs souhaitaient l'arrivée de l'usinier de Ravine-Glissante dans le capital de la société civile agricole. M. Sélaman considérait que le rendement de Ravine-Glissante ne permettait pas de traiter toute sa production. Un autre groupe d'administrateurs, qui se faisait de plus en plus restreint, ne voulait pas tomber sous le contrôle des Malbars. Ils étaient influencés par un de ces courtiers de Saint-Denis, siégeant au conseil, qui voyait d'un très mauvais œil l'organisation de la filière du sucre se concentrer à l'amont de l'usine, amoindrissant ainsi le pouvoir de négociation des distributeurs et des partenaires situés en aval, notamment ceux qui étaient, comme ce courtier, proches des raffineurs de Paris, de Nantes et de Marseille. Fortuné se faisait fort avec le soutien de son ami Lucien Gasparin, le député, et de son gendre, de prouver à ses résistants la nécessité d'organiser plus complètement la production de canne en essayant à chaque fois que cela serait possible de prendre le contrôle de l'usine. Fortuné savait que M. Sélaman n'avait aucune ambition d'hégémonie sur Rivière-du-Mât. Il souhaitait cependant, compte tenu de l'importance de sa production de canne, pouvoir en assurer régulièrement et aux meilleures conditions leur traitement, sans avoir à faire des acrobaties annuelles pour convaincre les maîtres de Bois-Rouge et de Quartier Français ou de Ravine-Creuse de traiter ces cannes. Il pensait que son fils, qui se destinait à l'école de Douai, pourrait, en temps utile, diriger Ravine Glissante, l'héritage de son épouse, et faire fonctionner Rivière-du-Mât, qui manquait gravement d'encadrement créole. Fortuné le savait d'autant mieux qu'il destinait également un de ses fils à la formation de Douai. Pour l'instant, le maire de Saint-André savait que les anti-malbars de Rivière-du-Mât avaient fait échouer les négociations avec le planteur de Brapanon. Et en sortant du bureau de Ravine-Creuse, il le mit rapidement au courant de la tournure des événements et lui demanda de le rejoindre à la mairie pour mettre au point une position commune. Le directeur de Ravine-Creuse sortit de son bureau et se rapprocha d'eux sans pouvoir recueillir aucune bribe de leur conversation. Fortuné s'éloigna rapidement et son confrère en déclarant à haute voix être d'accord pour que Verdun, son étalon, couvre sa jument. L'usinier, en recevant son confrère de Ravine Glissante, sentit que les opérations lui échappaient, et c'est sans conviction qu'il acquiesça à toutes les demandes de son deuxième visiteur. Quant à la prime de transport, il lui proposa le plus haut niveau de taux offert par les sucreries coloniales, soit 12,50 francs le quintal. Il fut à peine surpris quand M. Selaman demanda une semaine pour répondre à sa proposition. Le Mosson n'avait pas eu le temps de quitter la tête de son confrère et l'usinier était assez atteint quand il reconduisit le propriétaire de Ravine Glissante sous la varangue. Il était sûr qu'après une bonne pipe, un cognac et la sieste, il reprendrait tout son tonus pour recevoir les planteurs de Deux Rives dans l'après-midi. Voilà, c'était un chapitre un peu long de L'habitant de Pierre-Raphaël Vidotte. Donc, ce sont les mots qu'il a choisis pour décrire ces négociations entre l'usinier et le propriétaire terrien. Mais Pierre Vidotte, ben, on va aussi entendre sa voix. C'est lui qui a chanté le texte d'Albany Commander, donc, qui décrit donc les abus du commandeur, bien sûr, pendant la période de l'esclavage. Mais on verra aussi que sur l'habitation, sur la Cressonnière, on a encore un commandeur qui va s'occuper de gérer tout le personnel, des engagés ou des employés qui sont là. Et on découvrira après cette chanson le moment important de la paye, le moment où Fortuné doit payer ses ouvriers agricoles. Et ça me fait penser que mon grand-père lui-même était un comptable et faisait la paye pour les ouvriers à l'usine. Donc c'est aussi tout notre patrimoine de la Réunion.
Commander, oh t'es commander, à ton épée nous n'y attendons. Va venir le temps, nous rapit la race commander. Commander, casse pas ton sabot, tu t'as pas moins, tu fais ton blanc. Donc elle est comme un gros babouk, pour qu'à moi tu les ressemblons. Mon dos il brille comme si piment, avec des sels de la beauté. Les engounes et mes enfants, si les selles me les garottaient. Café les rouges et si la gamasse, mon femme la pique avec lève calou. Mes enfants et qu'est-ce d'un calbasse, si n'a manière que la viande pour nous. Tu le sais qu'à force pleurer, comment dire pour tes oreilles. Marron dans le cirque qui veille soleil, battant pour la liberté. La poudre de fusil la va péter, le cirque ne va dans ce maloya. Tous les deux miel pour nous voyages, la danse de rond nous va chanter. Commandez, ôtez, commandez, attendez, puis nous n'y attendons. Va venir le temps, va venir le temps, on aura plus la race commandée. Commandez, ôtez, commandez. Commandez, ôtez, commandez. Va venir le temps, va venir le temps. Va venir le temps, va venir le temps. On n'aura plus la race commandée.
La paye. Toutes les équipes de journaliers étaient arrivées. Certains s'asseyaient sur la margelle, où quelques plantes attendaient les soins attentifs d'Anne-Marie. Capillaires, fougères et bégonias devaient recevoir les moques de fumier de volaille susceptibles de les amender à la veille de l'hiver. D'autres journaliers s'accroupissaient en s'asseyant sur leurs talons le long du mur de la cuisine. D'autres restaient debout le long de la clôture de grillage métallique qui marquait la frontière avec la cour arrière. Antoine, le commandeur, était arrivé en avance, comme à l'accoutumée. Il consultait son carnet où les tâches des journaliers étaient notées soigneusement. Il utilisait un petit carnet jaunâtre dont les coins étaient racornis. Le commandeur en utilisait un pour 2 semaines de la vie quotidienne des journaliers. Chacun occupait un feuillet. Antoine savait lire et écrire. Il avait été dans la classe du certificat d'études, mais n'avait pas obtenu l'examen. Il se passait donc du bâton à encoche que les commandeurs analphabètes utilisaient. C'était généralement le tronc d'un caféier en fin de production, portant autant de nœuds qu'il montrait de cicatrices au niveau de l'attache, de la tige et du tronc. Peut-être était-il en train de contrôler les taches de Tsimarilla ou de Gamacho, des malgaches, des fortes têtes qu'il fallait tenir à l'œil constamment. C'est Tsimarilla qui s'était battu avec le fils du maître, roulant avec lui dans la poussière d'un chantier de curage du canal de dérivation qui a mené l'eau de la rivière du Mât pour entraîner la turbine de l'usine électrique. En effet, Arnaud, pendant des vacances, avait proposé ses services pour superviser ses travaux. Pendant une pause, il supposa être l'objet de l'Asie exprimée en entendroy par Tsimarilla et avait rudoyé celui-ci du geste et de la parole. Le malgache s'était rebellé, ripostant d'un juron et d'une bourrante. Les journaliers, pour comptabiliser leurs tâches, entaillaient une baguette et s'en servaient alors comme d'un mémo pour tenter d'apporter, le cas échéant, la contradiction au commandeur. Ce qui était rarissime, mais pas impossible. Voula le savait bien qu'il pouvait contester, mais au risque et péril de celui qui récriminait. Par 2 fois, cela lui était arrivé. En effet, il se lançait plus hardiment que les autres dans la discussion, car il était devenu un familier de la maison. Pris en tutelle par Lala qui couvrait ses écarts de conduite, Voula, en tant que gardien de nuit, régnait sur les ombres de l'habitation. Autorisé à se reposer pendant la journée, il s'accordait des siestes généreuses dans des breloques qui pouvaient s'étendre jusqu'à 4 heures dans l'après-midi. Le reste du temps, il déambulait sur l'habitation, s'occupant à gardienner les champs de vivres, haricots, tomates, piments et autres embrevates. Il pouvait se laisser aller à informer le maître, même si celui-ci ne l'interrogeait pas. C'est ainsi que l'exhumation du bœuf mort par les Malgaches arriva aux oreilles de Fortuné, qui dès lors soupçonna les Entendreuil d'avoir provoqué la mort de l'animal à l'aide d'une décoction de mafatamboa dont la culture restait sévèrement prohibée sur l'habitation. Les Malgaches avaient pu alors déguster le bœuf moka, faisant des appoints. Dès lors, Voula, se réclamant de ses services spéciaux, s'enhardissait au moment de la paye jusqu'à réclamer le paiement d'un dimanche matin où il avait été mobilisé par Anne-Marie dans la préparation d'un déjeuner sur l'herbe au profit de tous les neveux réunis pendant les vacances de Pâques. Il n'avait même pas attendu la fin des opérations et le départ des autres journaliers pour contester le nombre de pièces de monnaie qui lui avait été remis de la main à la main par le commandeur. Alors que le maître appelait le suivant, Voula s'était approché d'Antoine pour lui dire que la demi-journée manquait, ce qui fut transmis aussitôt à Fortuné, occupé à faire le compte de Gamacho. Le maître fut manifestement incommodé par l'incident, car Voula non seulement contestait, mais avait gravi de surcroît les trois marches de la varangue et s'approchait du bureau sans y être invité. Sans voulant savoir les raisons de l'incident et ne considérant que la présence inopportune du Comorien sous la varangue, Fortuné, comme mu par un ressort, bondit de son fauteuil de rotin et se précipita sur le gardien. Voula, qui comprit soudain les raisons de l'attitude de son patron, commença à battre en retraite. Un magistral coup de pied aux fesses accéléra celle-ci et Voula se ramassa pieds joints sur le terre-plein sans avoir à emprunter les marches du perron. Les mangeurs de bœuf faisandés estimèrent que la justice de Zanahar avait frappé. En définitive, la demi-journée de dimanche fut payée, car Anne-Marie, qui n'avait pas eu le temps d'informer son père, fut, elle, réprimandée, et elle n'eut donc pas à plaider longtemps la cause du gardien. Par ailleurs, Voula, habitué au lieu, n'avait plus eu conscience de l'importance qu'il prenait lors du déroulement des opérations de la paye. Pendant la paye, le lieu devenait en effet le théâtre de tout un cérémonial qui commençait par la mise en place, vers la fin de la matinée, du bureau du maître Antoine, commandé à un journalier de retirer d'une resserre se trouvant sous l'escalier qui desservait l'étage de la maison. C'était un meuble de type bonheur du jour. Son plateau recevait le long de sa bordure opposée à celle qui accueillait les coudes de l'utilisateur, trois rayonnages divisés verticalement de manière à former six petits casiers bien pratiques pour classer billets, pièces ou notes et mémo à l'abri des regards indiscrets. Placé face à la cour, un fauteuil en rotin de manille au dossier surélevé était approché. Il avait passé toute la semaine à former avec un autre un petit salon sous la varangue de l'Est, animé par les caquettements de perruches, habitantes d'une cage en dentelle de bois, prisonnières privilégiées. C'est Fortuné lui-même qui l'avait fabriqué au moyen d'une scie sauteuse à pédales, outil précieux du maître qui, entreposé dans son atelier, avait confectionné et brodé tous les lambrequins de la maison et tous les garde-corps ouvragés qui servaient en outre d'accoudoir dans l'embrasure des fenêtres. Ainsi, ce bureau permettait à Fortuné d'opérer les manipulations des pièces et des billets en toute discrétion avant la paie ou pendant son déroulement. Les petits casiers recevaient pièces et billets pour chaque équipe. Ils ne quittaient leur logement que lorsque les opérations commençaient pour l'équipe concernée, pour être rangés en tas sur le plateau. Les billets de 5 francs retenus par les pièces. Le bon déroulement de la paye était conditionné par un classement méthodique de l'argent nécessaire. Cela impliquait des comptes et des manipulations délicates que Fortuné effectuait avec Antoine le matin dans la paie de son cabinet de travail. Délicat également le décompte pour évaluer la paye d'une équipe et répartir sur le plateau du bureau l'argent de chaque journalier. Le payeur ne devait pas être distrait. Aussi, son courroux était-il justifié quand un importun comme vous là le dérangeait. Le commandeur Antoine attendit l'arrivée du maître pour donner l'ordre de sonner la cloche, signal qui annonçait que la paye commençait et que l'on était autorisé à pénétrer dans le patio situé entre cuisine et varangue. De fait, le journalier pouvait pénétrer avant le signal dans cet air de fraîcheur que prodiguait l'ombre d'une treille de raisin Isabelle. Une tolérance avait été instituée depuis qu'une femme affectée à l'épandage de fumier avait eu un malaise alors qu'elle attendait le signal dans le soleil de la grande cour. Certains, les Malgaches surtout, mettaient un point d'honneur à refuser ce qu'ils considéraient comme un signe de faiblesse et entraient au son de la cloche. L'arrivée du principal acteur de la paye était annoncée par le bruit de ses pas balisant son déplacement à travers la maison. Le commandeur repérait ainsi le passage du maître dans le couloir de l'étage, l'escalier, le couloir du rez-de-chaussée, le claquement plus sec du passage rapide sous la véranda. Quand le bruit se perdait sur le tapis de sisal du cabinet de travail, Antoine, d'un discret signal de la tête, signifiait à Voula qu'il pouvait sonner la cloche. Le Comorien n'abusait pas de ce privilège, mais il lui arrivait de mettre plus ou moins d'empressement à exécuter l'ordre du commandeur. Quand la gente travailleuse estimait que Voula lambinait, des apostrophes peu amicales fusaient de ses rangs. Le tintement de la cloche était le signal ultime qu'attendaient les plus blasés pour se mettre sur leurs pieds. Les plus pressés se dirigeaient vers la maison, alors même que Voula n'avait pas encore atteint le tertre de l'abreuvoir-lavoir où la cloche se cachait accrochée à sa potence. Cela prenait une allure faussement désinvolte et accélérait le pas au son de la cloche. Voula pratiquait avec un certain amusement et un réel plaisir cette manipulation de groupe et jubilait de ne pas être qu'un simple figurant dans cet important épisode de la vie de l'habitation. Cela n'échappait pas aux Entendroy, qui considéraient le Comorien comme un vendeur de courses. Aussi, lorsqu'il lui advenait quelques désagréments, comme celui de recevoir le pied au derrière, ils étaient les premiers à s'esclaffer bruyamment au détriment de Voula. Pendant le triomphe hebdomadaire de Voula, le maître avait le temps de se mettre en place et ce n'est que lorsque le dernier travailleur franchissait le seuil du petit portail donnant accès au patio qu'il commençait l'appel des journaliers. Chaque travailleur pénétrait dans la petite cour dallée par un portail en grillage métallique maintenu ouvert pour la circonstance par un crochet sommaire qui l'assujettissait à la clôture. Tous étaient coiffés d'un chapeau de paille ou de feutre. Certains, parmi les Malgaches surtout, portaient des bonnets carrés multicolores en paille tressée. L'usage qu'ils en faisaient s'appréciait au nombre de trous qu'ils avaient, et le soin que leurs compagnes leur apportaient aux traces de raccommodage plus ou moins discrètes dont ils avaient fait l'objet. Tsimarila et Gamacho portaient une sorte de turban. La plupart du temps, ils avaient une couleur indéfinissable, mais on soupçonnait qu'ils devaient en avoir une. Certains y voyaient une influence des colons indiens vivant à proximité du camp. D'autres, un signe distinctif lié à certains pouvoirs occultes que l'on affectait aux deux Entendroy. Fortuné en parlait sur le ton de la plaisanterie, à l'occasion, en affublant les accessoires vestimentaires du nom de Langouti. Cependant, il savait, par le témoignage de son fils qui avait résidé dans la grande île, que ce sont d'authentiques coiffures traditionnelles des Malgaches du Sud, influencées par les Shiraziens qui ont visité Madagascar dans les temps anciens et qui portaient le turban. De fait, ces coiffures donnaient au visage de leurs porteurs une dignité certaine et leur permettait de se sentir réellement en congé des tâches quasi serviles qu'ils enduraient pendant la semaine. Un look particulier qui leur permettait en outre de saluer d'un imperceptible mouvement de la tête, sans avoir besoin de se découvrir d'un geste plus ou moins appuyé, selon le degré de docilité de chacun. C'est ce que firent les porteurs de chapeaux en pénétrant dans le patio d'allée. Ceux qui avaient un feutre portaient la main sur le dessus du chapeau et le soulevaient à peine. D'autres le retiraient totalement pour le tendre ostensiblement l'ouverture par-dessous comme s'il quêtait. D'autres tiraient sur le rebord du chapeau et n'en soulevaient que la partie avant. Personne n'en effleurait plus des doigts le rebord depuis que la main du maître avait brusquement envoyé le chapeau par terre, décoiffant son porteur et l'obligeant à le ramasser, souillé par l'eau sale du caniveau où il était tombé. Par une sorte de protocole spécial, non dit, ce geste consistant à caresser le rebord du chapeau était réservé au maître. C'était celui qui sanctionnait la réponse à un salut qui, dès lors, ne pouvait être effectué que par une personne située à un niveau élevé dans la hiérarchie de l'habitation. Tsimarila et Gamacho ne portaient pas de chapeau que pour se protéger du soleil. Ils recouvraient leur turban qui fonctionnait au champ comme un serre-tête absorbant. Le jour de la paye, ces morceaux de tissu protégeaient leur dignité. Les créoles et les malbars saluaient sans emphase et accompagnaient souvent ce geste de la parole « Bonjour monsieur » ou « Bonjour monsieur Fortuné ». À eux seuls, Fortuné répondait par un « Bonjour » exprimé clairement, suivi de leur nom ou de leur prénom. Aux autres qui saluaient en proférant un grognement à peine audible, Fortuné soit ne répondait pas, soit le faisait dans le même registre. Antoine saluait le maître en y joignant une poignée de main, ce qui n'était permis à Voula qu'en privé ou bien lorsqu'il participait à une tâche domestique dirigée par Lala ou une des maîtresses. En public, Voula disait bonjour à Fortuné par un tonitruant « Bonjour papa », diversement ressenti par l'assistance. Quant à Fortuné, il tolérait cette familiarité outrancière, procédant de celle exprimée par les fous du roi, qui relativisait, en l'humanisant, l'importance du monarque. Antoine, le commandeur, à l'approche du maître, avait rectifié son attitude. Il était debout, près du haut tabouret, et commença l'appel des journaliers. Selon un rituel en usage, Fortuné répétait à la suite du commandeur le nom du journalier. Quand il entendit l'appel de son nom, Samuel se leva et se mit à chercher quelque chose dans un petit sac de vaquois qu'il avait posé près de lui. Il en sortit un morceau de bois d'environ 20 cm, son val-val, sur lequel figuraient de multiples encoches. Elles mesuraient le nombre de tâches effectuées par lui dans la semaine. Samuel s'avança, gravit les trois marches du perron et s'approcha à une distance respectable du bureau. Fortuné avait pris un billet dans sa main gauche et de l'autre, il faisait glisser dans la main du journalier des pièces qu'il libérait une à une en les comptant. Samuel prit l'argent et fit à nouveau le trajet jusqu'au mur de la cuisine, à l'endroit que sa tante de Vaquois repérait. Il s'assit de nouveau sur ses talons et se mit à compter les encoches sur son val-val. Pendant qu'il effectuait ce contrôle, d'autres travailleurs étaient appelés. Avec une attention soutenue, sans se laisser distraire par le va-et-vient des journaliers, il compta les encoches, examina dans sa main l'argent qui s'y trouvait, fixa sans les voir Antoine et son tabouret, et convaincu de l'exactitude du compte, fit à un être imaginaire un signe d'acquiescement. Le compte était bon. Il se leva, glissa son val-val dans la poche qui avait reçu le billet et les pièces. Il sortit ensuite sur le patio. En soulevant son feutre à petit bord, Samuel se rendit compte qu'il saluait le bureau, car le payeur qui s'en servait était très absorbé et ne voyait plus Samuel, qui se dirigea vers la cour de l'atelier de Vanille. Fortuné ne voyait pas Samuel qui s'éloignait et qui portait sur son visage le signe d'une incontestable satisfaction. car ses yeux donnaient l'impression de sourire et sa moustache kaki frémissait d'aise. L'unique billet de sa paye était un billet vert de 25 francs. Cela sanctionnait l'attribution d'une prime, car en matière de billets, le journalier s'attendait à ne recevoir que 3 billets de 5 francs. Il estima qu'Antoine avait compris que le défrichement qu'il avait effectué avait été particulièrement pénible. Samuel était un créole bâtard mal barre. Il venait de toucher le salaire pour le travail accompli sur l'habitation du maître où il était colon. Seules les terres les plus délicates à travailler étaient en colonnage. Elles représentaient environ le cinquième de la propriété et 5 colons, tous des créoles, y travaillaient. Le surplus était travaillé par les malgaches du camp, les engagés. Pour la coupe, l'habitation faisait appel à la main-d'œuvre saisonnière, des haleurs pioches qui souvent allongeaient leur engagement pour le nettoyage des menées de maïs, des champs de jeunes cannes ou des repousses, et pour l'épandage d'engrais phosphatés ou de fumier provenant du nettoyage des pare-bœufs et des écuries. Le nom du journalier suivant fut appelé Nisor. Affêté au parc à bœufs, était aussi le conducteur des charrettes attelées aux mules de Buenos Aires qui effectuait le transport de tous les vivres, constituant le salaire en nature des engagés achetés en gros aux commerçants de Saint-Denis ou de Saint-André. Nisor et ses mules transportaient également les sacs d'engrais, des potasses d'Alsace et des produits chimiques pour traiter les arbres fruitiers, notamment le sulfate de cuivre qui servait à confectionner la bouillie bordelaise, souveraine contre de nombreuses affections des plantes. Ceci complétait le travail de désinsectisation qu'une multitude d'oiseaux opérait sur les treilles de raisin qui répandaient leur ombre généreuse tout autour de la demeure. Nisor ne portait pas de val-val, mais avait extrait de sa poche paletot un chiffon de papier marron, de type papier kraft, que le regard curieux de Voula atteignait. Il y avait là reproduit des petits bâtons et des petites croix. Celles-ci représentaient les tâches effectuées aux écuries et au parc-bœufs et les bâtonnets au transport entre la gare ou la ville et l'habitation. Bien plus nombreuses que les bâtonnets, les croix attestaient de la difficulté et du temps réclamé par l'entretien de l'immense parc à bœufs et des écuries abritant les mules et les chevaux. À l'instar de la paie de Samuel, la paie de Nisor était constituée de plusieurs papiers, non donnés aux billets de banque. Pendant la coupe, il arrivait même que ce soit la paie du palefrenier la plus importante. Il devenait porteur de ses billets de 5 francs, portant des figurines de couleur grise à l'avers et rose au revers, entaillées des immenses signatures du payeur et du président de la Banque de la Réunion, jadis Banque des Missions. Fortuné reconnaissait la signature de son futur gendre. Ces billets, représentatifs des indemnités versées aux planteurs dessaisis à l'abolition de l'esclavage, de leur outil de production, les esclaves retournaient alors aux engagés. Timarilla entendit son nom et s'avança sans précipitation vers le bureau du payeur. Il faisait partie de ceux qui touchaient de grosses semaines, car Fortuné comptait un billet vert, 3 billets gris et 9 grosses pièces. Timarilla était avec Gamacho et un autre malgache affecté à d'autres tâches qu'à celles de la culture. Nettoyage des parcs, manipulation du fumier avec les palefreniers, nettoyage et curage des canaux d'irrigation et du canal de l'usine, conduite des bœufs au pâturage. Souvent, il arrivait en une semaine accumuler tous ces travaux que les malgaches conduisaient si nécessaire avec des équipes de haleurs pioches spécialisées, souvent des cafres, que les malgaches choisissaient avec l'assentiment du commandeur. Ainsi, Antoine pratiquait-il la délégation. Appelé à son tour, Gamacho s'approcha du bureau, son turban d'entrant droit faisant corps avec son crâne. Il était omniprésent dans les champs, spécialiste du dépaillage, du dessolage de manioc, du fouillage des fosses pour la plantation des cannes. Placé sous les ordres directs d'Antoine, C'est lui qui contrôlait la qualité d'exécution du barrage de dérivation de l'usine. Un papier vert et de gris lui furent attribués, avec de nombreuses pièces de toute grosseur. Camacho et Cimarilla contrôlaient leur paye à l'aide de ficelles qu'ils fabriquaient avec des tresses de feuilles cadères auxquelles ils faisaient des nœuds de différentes grosseurs correspondant au nombre et aux diverses tâches confiées. C'est ainsi que le contrôle du montant du règlement de leur paye s'apparentait pour les deux Antonroy à la récitation d'une sorte de prière pendant laquelle ils manipulaient des brins de fibres d'aloe nouées en chapelet de travail, comme disait la demoiselle Anne-Marie. Voilà, Page en partage s'achève. C'est notre troisième épisode de lecture de L'Habitant de Pierre-Raphaël Vidotte. Nous continuerons les deux semaines qui viennent pour terminer cette lecture sur ce livre qui m'a beaucoup plu et que je voulais vraiment vous faire partager, amis auditeurs. À tout bientôt, c'est Sophie de Page en partage.